Ça se passait tous les mercredis, le soir et surtout la nuit. Ça se passait au Dugout, un club de la ville de Bristol, dans le sud-ouest de l'Angleterre. Un collectif de DJ et de rappeurs prenait possession des platines et de ce collectif est né un groupe à géométrie variable, c'est Massive Attack. Massive Attack, c'est surtout Robert Del Naya, dit 3D, Grant Marshall, dit Daddy G et Andrew Vowles, dit Mushroom. On les a déclarés inventeurs d'un son, le trip-hop, mais Massive Attack, c'est toutes les musiques. Une fusion fluide de reggae, pop, soul, hip-hop, rock, électro. Ce matin, Pop & Co est donc Pop & Massive Attack, soit l'histoire d'une ville, Bristol, et l'histoire d'un pays, l'Angleterre, dont Massive Attack va faire émerger un récit non officiel. Ça fait 30 ans pile qu'apparu Blue Lines, leur premier album, comme la première balise d'une bande-son de l'inquiétude et de l'hédonisme. En Angleterre, on reste. Et jusqu'à midi, puisque ce matin, on entre dans les coulisses d'une chanson composée de l'autre côté de la Manche. Elle est signée Matthew Bogarts et elle est issue d'un disque qu'il a intitulé en anglais. Hello, welcome, it's Pop & Co.
France Inter, Rebecca Manzoni. Pop & Co.
Branchons-nous sur Canal+, au moment de la grande époque. À la charnière de la décennie 80 et 90, il y avait donc l'émission Rapido, présentée par un garçon en costard, debout, les mains dans le dos et avec un débit à nul autre pareil. C'est Antoine Decaune. Decaune nous racontait tout ce qui compte en musique. Nous sommes le 11 novembre 1990.
Un peu d'exotisme maintenant et rendons-nous à Bristol où s'active actuellement une scène musicale dont la qualité fait frémir les habitants de Bristol en particulier et ceux du Royaume-Uni en général. Scène sur laquelle on retrouve les sympathiques Carlton mais aussi Massive Attack qui avait pour nom The Wild Bunch à l'époque où Nelly Hopper, la moitié invisible de Soul to Soul, en faisait partie et que nous avons tourné dans un quartier de la ville répondant au doux nom de Montpellier. Si, sans oublier Smith et Mighty, deux producteurs fondateurs du label Free Strife et qui travaillent désormais avec Nene Chéri. Incroyable, non? Et puis aussi Horace Andy, un Rastaman qui vient d'enregistrer trois titres avec Massive Attack. C'est fou, non? Bref, du collage que nous allons nous empressé de passer à la machine à laver, rapido.
Mais, pour ce matin, leur avenir va plutôt rouler à ce rythme-ci. Bienvenue à Bristol, ville portuaire du sud-ouest de l'Angleterre, et bienvenue à St. Paul's, quartier de l'immigration jamaïcaine. Dans les années 70, le reggae s'impose donc comme l'une des bandes-son de la ville. Massive Attack est l'héritier direct de cette histoire. En 1991, pour leur premier album, ils sortent de l'ombre une grande voix du reggae, c'est Horace Andy.
It's you I love and not another. And I know our love will last forever.
Ça va?
Voici Melissa Shemam. Elle vit à Bristol et elle a travaillé sur l'œuvre de Massive Attack pendant plusieurs années. Le résultat, c'est un livre qui s'intitule « En dehors de la zone de confort » de Massive Attack à Banksy. Melissa Shemam y raconte l'histoire du groupe, de leur ville et de leur révolution.
Pour moi, Massive Attack raconte complètement Bristol et en fait même, après avoir travaillé des années sur le sujet, je trouve qu'ils ont un peu fait ce qu'est Bristol aujourd'hui. Je trouve que la ville a été complètement transformée par Blue Lines.
Qui est le titre de leur premier album.
Exactement. C'est très simple. Avant Massive Attack, le Bristolien le plus connu, c'est Cary Grant. Et la plupart des gens ne savent même pas que Cary Grant est né à Bristol, ils pensent même qu'il est américain. Donc il n'y a pas d'institution culturelle, il n'y a pas de nom qui en fait de Bristol un produit britannique, quoi. Et quand ce disque arrive, personne n'y croit. C'est limite, on fait les choses entre potes, quoi. Et soudainement, Blue Lines, ça met Bristol sur la carte, en fait, parce que c'est une telle photographie sonore, ça veut dire quelque chose, ça. Radiographie sonore. It's not every day you'll find a woman of your dreams. We'll always be there, no matter how bad things seem. So sure, no man C'est un petit carrefour d'histoire et de culture qui ont donné cette musique vraiment. Donc il y a plusieurs éléments. Par exemple, tout simplement, Bristol, c'est une ville portuaire. Donc un lien fort avec l'étranger, l'immigration. Puis, tout simplement, Bristol, c'est aussi une ville assez rebelle. C'est une ville qui a connu pas mal de manifestations, qui est plutôt anti-royaliste. Donc c'est pas vraiment le contexte habituel des grandes villes qui ont marqué la culture anglaise, par exemple, au fil des siècles. Dans les années 60-70, après la guerre, c'est pas forcément une ville très riche, c'est une ville culturellement pas du tout sur la carte. Et donc, il n'y a pas beaucoup d'endroits où expérimenter, vivre une vie culturelle riche. Ça se fait underground, chez les uns, chez les autres. Et ça, ça a vraiment joué, ces quartiers caribéens, jamaïcains, britanniques, working class, irlandais, italiens, se croiser dans les mêmes pubs, dans les mêmes rues, dans les mêmes soirées.
Et voici l'une de ces soirées quelque part entre 1983 et 1986. C'est là que se forme un collectif de DJ rappeurs qui s'appelle The Wild Bunch. The Wild Bunch, comme la horde sauvage. Ces gars-là font se télescoper reggae, punk, électro, rap et aussi ce genre de morceaux.
The look of love is in your eyes, a look your smile can't disguise.
The look of love, donc. Chanson de 1967, interprétée par Dusty Springfield sur une mélodie de Burt Bacharach. 20 ans plus tard, le son de Massive Attack naît pour la première fois avec une reprise de cette chanson. Et la voix d'une anglo-jamaïcaine, c'est Shara Nelson.
Love, c'est un peu le premier titre Massive Attack-esque de l'histoire. C'est la révolution qui s'est faite avec la nostalgie, en gros. Il y a cette idée qu'on fait d'un son un autre son, quoi, d'un genre un autre genre. Et ça, The Look of Love, c'est vraiment la première fois que c'est abouti, que ça devient le son qu'on reconnaît, que les gens commencent à parler de son de Bristol quand ils l'entendent. Et notamment, un des critères de base, c'est que c'est extrêmement ralenti. C'est du tempo lent, pour plein de raisons, hein, parce qu'ils sont les surnommes les paresseux de l'Ouest, parce que bien sûr, il y a cette culture de fumer beaucoup d'herbe qui vient de la Jamaïque. Il y a ce rapport à la lenteur, qui est absolument flagrant à tous les niveaux. Non seulement ils produisent les disques lentement, les chansons ont un rythme lent, les voix traînent, et ça, c'est vraiment une couleur qui est sortie de Bristol un peu. Comme dira Grant Marshall souvent, c'est pas une musique pour la boîte de nuit, c'est une musique pour après la boîte de nuit.
We'll be right back.
Dans Massive Attack, il y a Robert Del Naya, dit 3D, Andrew Vowles, dit Mushroom, et Grant Marshall, dit Daddy G. À eux trois s'ajoutent d'autres voix d'hommes, comme celle de Tricky, ou des voix de femmes, comme Liz Fraser ou Sharon Nelson, et toutes et tous ont grandi sous les mandats de Margaret Thatcher, au pouvoir de 1979 à 1990.
France Inter.
On dirait qu'il serait 13h.
France Inter.
Nous sommes le 22 novembre 1990, le journal vous est présenté par Jean-Luc Hess.
Bonjour. Coup de théâtre au 10 Downing Street, Margaret Thatcher démissionne, la dame de fer n'a manifestement pas supporté d'être mise en ballotage par les députés du Parti conservateur.
France Inter. Et depuis Bristol, dans ce Pop and Massive Attack, il y a Mélissa Chemam.
C'est-à-dire que c'est des gens qui existent vraiment malgré Thatcher. Et d'ailleurs, ils sont très anti-Thatcher. Et il y a beaucoup de paroles qui en parlent. Ils sont tous très anti-conservateurs. Évidemment, ils sont artistes, chômeurs, fumeurs, etc. C'est pas du tout leur milieu. Et tous d'origine étrangère. Et du coup, effectivement, ils ont créé le monde qu'ils veulent voir exister. Ils sont l'incarnation de ce métissage. Visuellement, c'est super. Et ça parle à toute une population qui, elle, n'a pas encore été représentée à la télévision. Il y a eu des gens comme Sade. Mais c'est vrai que ça impose, et juste après, on voit le trip-hop impose vraiment ce multiculturalisme. Il y a tous ces groupes qui copient Massive Attack, de Morshiba à Uncle, qui cherchent comme ça des figures qui puisent dans les racines du multiculturalisme britannique, avec positivité et avec grâce, quoi. On a envie de copier ces gens. There's a looking glass, she's looking through. She hated me, but then she loved me too. I'd lie not try, so I lost faith. Then turn to her to keep the faith. She told me take an occupation or you lose your mind. Not a 9-to-5 lemon, looking for the line. Looks clever, watch your sister come together. Crazy weather at the end of my tether. Massive in the area, murderer. Attacking at the area, murderer. Song goes softly, softly round a habitat. Ratchet in the right hand, they got no one to stab at her. Take a walk, Billy, don't be a hero. Efforts are minimal, they're almost at zero. Excommunicated from the brotherhood of man, the one that lonely as a puzzled anagram. Blue Lines, premier album de Massive Attack, est un disque miracle, un carton commercial auquel personne ne croyait. C'est la bande-son d'un monde rêvé, un monde tout entier concentré sur ce moment où la nuit va basculer vers le jour. Rentrer de fête, être dans un état second. Et pendant ce temps, l'opération Tempête du désert a été déclenchée. C'est la première guerre du Golfe. Or, le groupe dont je vous parle ce matin s'appelle Massive Attack. Et dans les journaux, surtout britanniques, Massive Attack, c'est une façon de ne pas dire guerre, war. C'est un euphémisme, exactement. C'est la façon de dire on a attaqué un petit peu lourdement en Irak. Et ce qui se passe, c'est que le groupe s'appelant Massive Attack, leur PR, leur communication là, de leur label, leur dit... On va pas sortir un disque qui s'appelle Massive Attack, là, les gars, c'est pas possible. Donc, les tout premiers vinyles de Blue Lines sont pressés sous le titre de Massive. Et donc, la guerre en Irak, c'est aussi une représentation du rapport entre le Royaume-Uni et ses anciennes colonies là-bas, dont la Palestine. Et ça deviendra un des enjeux de militantisme, en fait, du groupe assez rapidement. Et du coup, c'est vrai que pour ça, Massive Attack devient une sorte d'emblème de la contre-histoire du Royaume-Uni.
Allô ?
Ouais, j'arrive.
Allô ?
J'arrive. William ?
C'est cool.
Voici William Rezé, musicien électronique, qui avance sous le nom de Tilassine. Tilassine n'a pas grandi avec Massive Attack. En 1991, quand leur premier album est sorti, lui, il n'était pas né.
Il m'a fait grandir, pour le coup. J'ai peut-être pas grandi avec Massive Attack, mais ça m'a suivi assez longtemps. Quand j'ai découvert, je devais avoir à peine 15 ans, quoi, ou... Je pense que c'est le premier groupe que j'ai vraiment eu un peu un coup de foudre, où j'ai vraiment accroché. Et le groupe aussi, enfin la musique que j'écoute toujours aujourd'hui, quoi. C'est celle qui m'a jamais lâché, en fait. Puis ça montrait aussi un degré d'ouverture culturelle assez énorme, quoi. Pour avoir dans un morceau du clavecin, dans l'autre des samples, des vieux samples de rock, des choses de jazz. En fait, c'était se dire que tout est possible, quoi. Qu'il n'y a absolument aucune frontière de style, d'époque, que tout peut cohabiter, que la musique est une sorte de tout un petit peu magique. Et après, c'est du savoir-faire, hein. Tout le monde n'est pas capable de mélanger les genres de cette manière-là. Mais en tout cas, eux étaient totalement capables. Et pour moi, il y a une sorte de résumé de la musique dans les morceaux de Massive Attack. Et c'est quelque chose que j'adore, quoi. C'est une sorte de... librairie musicale ouverte et réarrangée qui est assez géniale.
Le morceau Karma Coma de Massive Attack paru sur l'album Protection en 1994.
Well, leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way sorrow cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers. You're a couple, especially when your body's double duplicate. And then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma.
Karma Coma, en fait, il y a un truc qu'on entend qui fait « oui ». Alors, je vais peut-être pas me lancer à l'imitation, mais en gros, c'est un chant guttural très particulier que des Inuits font. Et c'est un sample qui est tiré d'un documentaire même pas d'un disque, et qui figure dans le morceau qu'on entend très clairement, mais qui n'est pas présenté comme tel. Et donc, moi, j'ai toujours écouté le morceau sans me poser la question de ce que c'était. Je suis tombé par hasard là-dessus. Et ça a été un peu une révélation, parce que je trouve que ça se marie parfaitement avec le morceau. Et moi, c'est aussi ces découvertes-là qui m'ont validé le fait que j'entreprenne après des voyages pour aller enregistrer des sons particuliers, des enregistrements que j'ai fait avec un chaman en Sibérie, des choses comme ça. En fait, toute la recherche sonore est presque super expérimentale et tout, mais on a un format qui est quand même relativement accessible et qui est beaucoup plus proche de la chanson ou de la pop.
C'est le début du générique d'une émission qui s'appelait Éclectique et pour laquelle j'avais rencontré 3D et Daddy G, deux des membres de Massive Attack.
Et c'est là que nous avons essayé de rester, même si nous sommes dans une grande maison de disques, rester à la croisée des chemins entre être dans une grande maison de disques et garder une mentalité underground, faire nos trucs dans notre coin et rester aussi indépendant que possible, sans avoir à vendre trop, même s'il faut bien payer le crédit, s'occuper des gamins, de sa famille, tous ces trucs-là. On a fait un peu le grand écart, là. Je ne sais pas très bien pourquoi, d'ailleurs.
T'as raison. C'est ce que j'allais dire. Pour revenir à la question sur la musique qu'on écoute, il n'y a plus tellement de musique underground qu'on peut découvrir aujourd'hui. Avant, quand on a commencé, le hip-hop était underground. Et c'est ce que disait 3D. Il y a plusieurs années, on découvrait des petites chapelles musicales. Et on les propulsait vers la ligne de front commerciale. Ça prenait beaucoup plus longtemps pour atteindre le grand public. Maintenant, tout le monde se démène pour mettre tout sur le marché et pour en tirer des profits rapides. Et plus rien n'a le temps de respirer et d'exister.
La discussion avec le musicien Tilassine.
Ce qui est aussi impressionnant dans leur cas, c'est qu'un album comme Blue Lines, qui est sorti donc il y a 30 ans, vous en avez 28, c'est que ça n'est pas daté.
Non, ça n'a pas vieilli, mais en fait, le fait est qu'il y a très peu d'électronique dedans. Hein. C'est aussi ce qui est intéressant. La plupart des rythmiques sont des samples, des choses comme ça, retravaillées, qui sont passées dans des machines et tout. C'est pas, on n'est pas sur un truc de boîte à rythme, de synthé. C'est une recherche sonore qui va plus loin. Donc, du coup, ils ne sont pas affectés par une sonorité typique de telle machine qui était utilisée à l'époque et qui aurait mal vieilli aujourd'hui. Quoi. Ça a créé son style un peu, Massive Attack. Ça ne suivait pas vraiment une époque. Donc, quand on écoute Massive Attack aujourd'hui, je trouve que ça, on ne pense pas à une époque précise. C'est toujours d'actualité et, parce que c'est un petit peu à part. Quoi.
Toujours, Massive Attack invite une nouvelle voix, celle de la chanteuse anglaise Tracy Thorn. C'est elle qui écrit aussi le texte de ce morceau. Le titre, Protection. This girl I know needs some shelter.
C'est assez ironique parce que elle écrit le texte de Protection et cet album qui s'est fait de très nombreuses disputes et de très nombreuses répétitions dans le studio où la moitié venait pas ou quittait la salle, etc., finit par sortir ce chef-d'œuvre de douceur et le titre Protection qui est une sorte de réponse subliminale aux constantes disputes. C'est assez étonnant. D'artistes femmes ont chanté énormément leur peine de cœur. Donc moi, j'adore les voix de femmes, mais j'ai toujours trouvé qu'il y a beaucoup de chansons qui sont super pas féministes, dans le sens où la fille s'effondre, le mec est parti, sa vie est finie. Quoi. Protection, c'est une chanson très simple, les paroles sont très simples, où Tracy Thorn inverse les rôles, où elle dit toujours à l'homme qu'elle aime « I'm a boy and you're a girl ». Donc c'est juste une invitation à se mettre dans le rôle de l'autre.
Je suis le garçon et toi, t'es la fille.
Et c'est une invitation à se mettre à la place de l'autre et à une réflexion sur le rôle genré. Et à dire, c'est vraiment très simple hein, comme parole, mais ça n'avait pas été dit comme ça. à dire qu'est-ce que c'est aimer l'autre, c'est le protéger. Et comment on protège? C'est pas forcément en étant l'homme le plus fort. C'est juste en étant là pour l'autre et en acceptant tel qu'il est. Et donc elle dit très simplement, parfois il suffit juste de mettre ses bras autour de quelqu'un. Et c'est vraiment une réflexion sur la masculinité un peu, pour dire, t'es pas obligé de m'impressionner pour que ça marche, quoi. Ça peut aussi être dans la vulnérabilité, et tu peux aussi être celui qui a besoin de la femme. Et Better Thing est l'autre titre qu'elle chante sur le disque, et là vraiment pour le coup c'est une chanson sur le fait qu'un mec s'est barré, nous l'a trompé, mais qu'elle a tout à fait plein d'autres choses à vivre. Elle ne va pas pleurer, elle ne va pas chanter le désespoir, la fameuse chanson d'amour que tous les groupes ont fait mille fois, du « Sans toi, je suis morte ». Et donc elle chante quelque chose qui moi m'a beaucoup parlé, parce qu'à l'époque même Björk en fait pleurait dans ses chansons d'amour.
On dirait qu'il serait 20h, et dans la télé, allumée sur France 2, il y a Bruno Mazur. Nous sommes le 2 mai 1997.
Madame, monsieur, bonsoir, good evening. It is a landslide. C'est un raz-de-marée en Grande-Bretagne. Le parti travailliste a emporté 419 sièges contre 160 au parti conservateur. Les choses n'ont pas traîné. Quelques heures après cette défaite historique de John Major, Tony Blair occupe déjà le 10 Downing Street. Reportage de nos envoyés spéciaux à Londres, Thierry Tuillier, Pierre Moscovitch.
Tony Blair s'installe, mais lorsqu'il prend la parole, il ne semble pas encore descendu de son nuage, le candidat sous le Premier ministre.
Je n'ai pas été élu pour défendre un dogme, incarner une doctrine ou un retour vers le passé. J'ai été élu pour réaliser toutes ces choses dont la Grande-Bretagne a besoin pour préparer l'avenir.
Des paroles aux actes, le plus difficile commence. Il ne faudra pas doucher l'enthousiasme des électeurs qui ont attendu si longtemps le retour d'un travailliste à la tête du pays. Il est 4h du matin et les militants travaillistes fêtent la victoire d'un des leurs. Ce sont les premières vraies scènes d'allégresse depuis l'annonce des estimations. Ils sont restés là ensemble jusqu'à la levée du jour.
Au milieu de ça, vous avez les mélancoliques, ceux qui vont toujours aller chercher derrière le rideau, Radiohead et Massive Attack, qui écrivent leurs albums, qui raconte le versant, encore une fois, l'autre côté de ce mythe productiviste, réconciliateur, d'une autre façon. Et c'est à ce moment-là qu'est composé Mezzanine.
Donc en fait, l'album de Radiohead à ce moment-là, OK Computer, et l'album de Massive Attack, Mezzanine, c'est comme si c'était la face plus sombre de ce que le gouvernement Tony Blair essaye de diffuser à ce moment-là.
Oui, totalement. Alors, Mezzanine et OK Computer sont écrits quasiment en même temps. Et donc, ils sont écrits un peu en même temps dans cette période où eux, oui, donc, voient le cauchemar derrière Tony Blair. Il y a beaucoup de paroles chez Radiohead qui disent, si vous vous rappelez sûrement, le Premier ministre a essayé de m'appeler, il veut me voir, mais non, j'ai refusé, ou toutes ces chansons sur le consumérisme. Chez Mezzanine, c'est beaucoup moins direct, mais il y a toute la tension que vivent les gars en studio finit par créer un des albums qui, effectivement, raconte l'angoisse fin de siècle, comme on dit. Raconte l'hyper-technologie, raconte toutes les rumeurs sur l'Internet qui va arriver et révolutionner nos vies. D'ailleurs, Mezzanine est un des premiers albums à sortir en streaming, en même temps qu'en copie physique, en 1998, en avril. Mezzanine en anglais, c'est pas tout à fait pareil qu'en français, c'est un étage qui est entre le 0 et le 1. C'est vraiment l'interlope, c'est ça. Je pense que Mezzanine, en français, si on devait le traduire, on l'appellerait interlope.
Mezzanine, paru en 1998, est l'album de Massive Attack qui a rencontré le plus de succès. Il fait partie d'une mémoire collective, on l'entendait partout. Quand vous allumiez la télé en cette fin des années 90, vous regardiez du sport et il y avait ce morceau, bande-son idéal pour accompagner une action au ralenti. Et puis surtout, il y a la voix de Liz Fraser.
Most faithful mirror, fearless.
Bristol, 2006, Daddy G et 3D sont au micro de France Inter et je n'ai pas encore la voix enfumée.
Pourquoi vous choisissez particulièrement des voix féminines pour interpréter les chansons? Vous trouvez que le groupe Massive Attack est trop masculin par ailleurs?
Trop masculin?
Yes.
Oui, peut-être.
Même quand on était DJ, on avait ce truc qu'on appelait le brut et le doux. Il y avait un tempo très masculin et on posait dessus quelque chose de très doux. Et on a conservé ça dans tout ce qu'on a fait. Et c'est vrai que dans les endroits où nous travaillons, il y a une majorité d'hommes. Et on a toujours cru que les femmes peuvent apporter un sentiment particulier que les hommes n'ont sans doute pas.
C'est une bonne réponse, Jean. C'est bien d'avoir une sorte d'équilibre. Mais bon, on ne retravaille jamais avec
Horace. Il ne nous restera plus qu'Horace Andy. Mais même Horace Andy, par exemple. La nature de sa voix est un peu féminine. You know.
S'il t'entendait.
Je ne devrais pas dire ça.
Just the sweetness of his voice.
Mais avec la douceur de sa voix.
And you know, even from, you know, his voice actually stuck out.
Il a toujours été à part dans la musique jamaïcaine.
Masculine, sort of.
Surtout que c'est un milieu,
you know, orientated,
très masculin.
Sort of thing, you know, in Jamaica it's kind of quite, you know, macho.
La Jamaïque est un peu macho.
Sweet voice that used to always.
Et au milieu de tout ça, il y avait une voix très douce qui était bien au-dessus des autres. C'était lui, et on a toujours adoré.
We wanted to work with him because of that.
Et c'est pour ça qu'on voulait aller travailler avec lui.
France Inter, il est 19h. Le 10 juin 2018, le journal vous est présenté par Yves de Caen.
Il aurait eu sa place dans cette nuit blanche, un nouvel happening du street artiste britannique Banksy, qu'il était le seul à pouvoir se permettre. C'était à Londres hier, à l'issue d'une vente aux enchères chez Sotheby's. Une toile qui vient tout juste d'être adjugée plus d'un million de livres et qui s'auto-détruit partiellement, du Banksy tout craché. Haute Sophie à Londres.
Une broyeuse à papier était apparemment cachée dans le bas de l'épais cadre doré et immédiatement après la fin des enchères, l'œuvre a été déchiquetée, ne laissant intact que le ballon rouge en forme de cœur de cette image bien connue. La fillette du tableau, elle, a été réduite en lambeaux en quelques secondes devant les yeux ébahis du public. L'œuvre venait tout juste d'être adjugée à 1 042 000 livres, 4 fois son estimation. Sotheby's, la maison de vente, a évoqué un incident inattendu et une première dans l'histoire de la vente aux enchères, sans préciser si elle était au courant du canular. Banksy est connu pour ses facéties et ses coups médiatiques. Il a d'ailleurs publié dans la nuit une photo de la vente sur son compte Instagram, accompagnée d'un commentaire ironique.
Pourquoi vous parlez du street artiste Banksy? Parce qu'une rumeur court, selon laquelle Robert Del Naya, dit 3D, soit l'un des piliers du groupe Massive Attack, bref, la rumeur dit 3D égale Banksy. Parce que 3D, en plus de signer toutes les pochettes de Massive, était aussi graffeur. Et il pratiquait le pochoir, comme Banksy. Ou plutôt, c'est Banksy, de Bristol lui aussi, qui a fait comme 3D.
Beaucoup de gens disent au Royaume-Uni que 3D et Banksy, il n'y aurait pas Banksy sans 3D, c'est une évidence. Ça vient vraiment de lui, il y a beaucoup d'idées qui viennent de lui, mais ni l'un ni l'autre ne l'a jamais dit, parce que ça fait partie des petits secrets en fait. Il l'a inspiré à tous les niveaux, visuellement, par les idées. Ses valeurs, en fait. C'est un rebelle qui a continué à graffer illégalement alors qu'il risquait la prison, qui ensuite a transité par la musique et qui a toujours utilisé ses visuels. Il a imposé à son label de faire les pochettes d'albums. Donc, il a toujours continué sur sa ligne et il a toujours laissé de côté une certaine démarche artistique quand elle s'est retrouvée envahie de gens qui la répétaient et qui l'amenaient à devenir grand public. C'est d'ailleurs pour ça que lui a arrêté le graffiti au début des années 90, au moment où Banksy, lui, a commencé, parce que c'était devenu, en fait, quelque chose de beaucoup plus mainstream.
Si Massive Attack continue de publier des morceaux, le dernier album en date du groupe, c'est Heligoland, paru en 2010, et il y a cette chanson, Paradise Circus, qui clôt ce pop and massive.
It's unfortunate that when we feel a storm,
ce Pop and Massive Attack, je vous recommande chaudement le livre de Mélissa Chemam, En dehors de la zone de confort, de Massive Attack à Banksy, c'est le titre, et l'ouvrage a paru aux éditions Anne Carrière. Le musicien Tilassine que vous avez entendu dans ce récit est l'auteur de la bande originale d'OVNI, super série d'Anthony Cordier avec Melville Poupeau et Géraldine Pellas. Vous pouvez la voir sur My Canal. Et Timeless, c'est le titre du dernier album de Tilassine.
France Inter, Pop and Co, Rebecca Manzoni.
Ok, je choisis. Ah, je sais.
Qui choisit ? C'est Mathieu Bogarts, avec qui on va parler English, reggae et succès dans quelques minutes. Et qu'est-ce qu'il choisit ? Le disque d'un confrère ou d'une consoeur diffusé en ce moment sur France Inter.
Donc spontanément, dans tous les artistes que je vois, la personne qui m'avait vraiment touché, je trouvais un truc très personnel et très musical et vachement chouette, donc c'est Laura Cahen. Je ne connais pas cette chanson en particulier, mais j'avais tellement aimé celle que j'avais écoutée que je lui fais confiance.
La chanson s'intitule « La jetée ». Elle est issue du prochain album de Laura Cahen, dont la sortie est prévue début mai.
Calme la mer, efface-la.
Je m'y suis, je
Bienvenue à Poudlard, l'école des sorciers d'Harry Potter.
N'importe quoi.
N'empêche, on s'y croirait, hein, avec une porte pareille, mais je m'égare. Nous sommes dans les locaux du label Tôt ou Tard. Je viens y rencontrer Matthew Bogart, dont le nouvel album vient de paraître. Le titre du disque, c'est « En anglais », puisqu'il y chante « En anglais », après plusieurs années passées à Londres. La sortie de l'album s'accompagne d'un documentaire épatant d'Arthur Le Foll. Vous pouvez le visionner sur YouTube, il suffit de taper Matthew, M-A-T-H-I-O-U. Et ça commence comme ça.
Bonjour, messieurs, dames. Je suis André Bogart, le fils de Matthew Bogart. Je suis ravie de vous inviter pour regarder à ce film les aventures spéciales de mon père à Londres.
Eh bien, me voilà, Matthew Bogart, le père.
Ce matin, on soulève le capot de la chanson « Am I Crazy ?» On va essayer en tout cas.
Ça ne marche pas, ça va marcher. Hein.
J'ai confiance.
Okay. Vous pouvez avoir confiance. Après, je n'ai pas toujours moi confiance en l'outil informatique. En l'occurrence, là, pour l'instant, il fait défaut. Mais ce n'est pas la première fois. Et comme je suis optimiste et que ça finit toujours par marcher, et que je suis très patient.
Vous êtes optimiste, vous ?
Je suis très optimiste. Même si je suis inquiet sur beaucoup de choses, j'ai toujours un petit truc qui me dit qu'après la pluie vient le beau temps.
Mais d'ailleurs, Am I Crazy ? C'est une sorte d'épiphanie. C'est un émerveillement sur ce qui vous entoure.
Exactement. C'est une chanson qui formule une joie comme ça, ponctuelle, et puis de s'attarder sur des détails autour de moi, et d'un seul coup, de tout aimer. Oui, on peut dire ça. Une chanson contemplative, un peu grisée, comme ça.
J'aime le bleu, j'aime le vert. Entre les deux, je ne saurais choisir. Pour moi, tout est beau, dit la chanson.
des chansons que j'ai écrites, la première phrase qui m'est venue, c'est celle qu'on entend en premier quand on fait play sur le disque.
Et là, en l'occurrence,
I like the blue.
I like the blue. I like the green. I don't like two. Two choose between. I like the two. You see what I mean? I like the blue and all the colors I've seen. I like the blue sky and the sea. I like, I do, I like this tree. Am I crazy?
Matthew Bogart.
Jusqu'à ces 7 premières années, on peut tout à fait, n'importe quel être humain est tout à fait disposé à parler avec n'importe quel accent. On peut lui apprendre un chinois, une langue, enfin, il pourra toujours tous les faire, mais à partir de 7 ans, c'est plus possible. C'est-à-dire qu'après, même si je fais 18 heures de chinois par jour, je n'aurai jamais l'accent chinois parfait. C'est physiquement impossible. Even if I want to speak with an American accent, I want to fake. Dès que je parle avec un accent comme ce que je viens de faire, j'ai l'impression de faire semblant, de me déguiser. Et la vocation initiale de la chanson, c'est surtout pas de se déguiser, c'est justement d'être le reflet de l'intimité. Donc c'est un anglais, mais qui doit sonner dans ma bouche de français sans forcer, ce qui a vachement réduit le champ lexical, c'est-à-dire qu'il y a plein de mots qui ne pouvaient pas sortir joliment de ma bouche. Alors je suis en train de vous parler, et en même temps, je n'ai toujours pas résolu ce problème informatique, mais qui va...
Ah, il s'est passé un truc.
Il s'est passé un truc, il faut qu'il s'en passe un deuxième. Le premier s'est passé.
Le deuxième truc, c'est écouter les différents éléments qui composent la chanson « Am I Crazy ?» dont par exemple... la batterie.
Alors, j'ai mille choses à dire là. Attention, là, si on chauffe sur les pistes, moi je.
Chauffez-vous.
J'ai du répondant.
En revanche, est-ce qu'on peut arrêter ?
Oui, tout à fait. Alors, le rythme reggae, avec l'accent français, je trouve que c'est un rythme merveilleux pour chanter des chansons parce qu'il y a beaucoup d'air, beaucoup de silence. Le propre du reggae, c'est qu'il n'y a rien sur le 1, par exemple. 1, 2, 3, 4. 1. Donc il n'y a rien sur le 1. Et donc il y a beaucoup d'air. Et du coup, quand on veut chanter, il y a beaucoup de place pour que la voix soit tellement libre. Et comme je chante doucement, quand il est question d'enregistrer une batterie, même si, bien sûr, au mixage, on peut toujours mettre la batterie à 1 et la voix à 1000, on fait ce qu'on veut. Mais c'est incohérent d'avoir une batterie qui joue trop fort. Il faut que l'énergie de la batterie soit en cohérente avec l'intention. Et donc, je me suis aperçu sur ce disque en particulier que quand je prenais une vraie batterie, il y avait un truc, ça marchait pas.
Ça faisait trop bourrin ou...
Voilà. Donc je joue avec mon pied sur une malle. Et donc c'est pareil que quand je fais de la batterie comme ça sur... Voilà, sur mes jambes. Donc ça reproduit ce côté batterie fait à la main. J'ai beaucoup joué à la main avec mes doigts sur la caisse claire et sur le Charleston. Et je dis ça simplement, mais ça a été beaucoup de recherches pour arriver à trouver la bonne malle, le bon doigt, etc. pour être à l'unisson avec cette prise de voix.
Est-ce qu'on peut écouter que la voix toute seule ?
Alors, on ne peut pas écouter la voix toute seule parce que la voix est enregistrée en même temps que la guitare.
Ah, ok.
Il y aura ce qu'on appelle de la repisse. Dans le jargon professionnel, on dit ça repisse. Ça veut dire que sur un micro qui a vocation à enregistrer quelque chose, on entend un peu autre chose.
I like the blue sky and the sea. I like I do, I like this tree, ah ma crazy.
Ah là là, la prise de voix, le choix de la prise de voix, c'est pareil, c'est déchirant parce que ce jour-là, je l'avais chanté comme ça, c'était pas mal, j'avais un petit sourire dans la voix, ça évoquait telle chose, et puis le lendemain, j'avais refait une prise et j'étais un peu triste, et du coup, il y avait un petit supplément de mélancolie qui faisait vibrer les mots autrement. Et puis ce jour-là, j'étais hyper. J'étais fatigué, donc j'avais la voix un peu cassée, et du coup c'était marrant parce que voilà. Et donc c'est pour moi la période d'enregistrement qui devrait être une joie, c'est plutôt souvent une souffrance. La souffrance de me dire j'aurais pu faire mieux, c'est pas aussi bien qu'hier matin dans ma douche. C'est toujours beaucoup plus de temps que prévu. À chaque fois je me dis cette fois-ci je vais faire vite et bien, et en fait j'arrive à finir bien, j'espère, mais surtout pas vite.
And I like the white light of the moon. I like the black night coming soon. Am I alone? Oh yeah. Singing in my bedroom.
Donc cette prise de voix, oui, je l'aime encore. Alors je dis je l'aime encore parce que, en général, ce que je trouve qui vieillit le moins bien, entre guillemets, dans mes chansons, pardon, dans mes disques, pardon, c'est les prises de voix. Donc quand j'écoute un vieux disque, ce que je vais avoir le plus de mal, c'est écouter ma voix. Je suis pas le même qu'il y a 10 ans et qu'il y a 20 ans non plus. Donc quand j'écoute ma voix il y a 20 ans, c'est comme les regards. On s'aperçoit quand on voit une photo d'un regard d'un homme de 70 ans ou de 20 ans, 70 ans n'étant pas l'âge que j'ai. Quand on voit un regard d'un homme de 70 ans ou d'un enfant, on sent voilà, une différence d'expérience, de rapport au monde.
Ça charrie d'autres choses.
Voilà. Donc cette voix qui a été enregistrée il y a, je ne sais pas, un an, je me reconnais dans cette voix.
Dans les pistes de cette chanson, il y a aussi des pistes dont, pour ma part, enfin jusqu'ici en tout cas, je n'avais jamais vu le nom. Il y a une piste frotte.
Oui.
Et il y a des pistes chichi.
Oui. Donc, chichi, c'est... Alors, c'est quoi, chichi, déjà ? Qu'est-ce que c'est, chichi ?
Ah oui, mais chichi, chichi, c'est... Chichi ? C'est ce bruit-là.
En faisant mes voix, je me suis aperçu que souvent, naturellement, sans chercher à le faire, dans les petits trous, comme ça, sur mon jean ou sur mon pantalon, je fais des relances de batterie, comme ça. Mais sans quelles évocations être enregistrées. C'est juste dans la joie... Je suis en train de chanter comme ça, j'enregistre ma voix, et puis entre deux parties, je fais comme ça, juste pour. Et je me suis aperçu en écoutant mes voix que des fois ça avait un charme esthétique. Donc, du coup, sur presque tous les morceaux de ce disque, j'ai fait une prise de jean, on va dire. Alors, des fois c'est chichi, donc. Des fois c'est. Donc, ça c'est pas chichi.
Ça c'est frotte.
Ça c'est frotte. Frotte. Et des fois c'est chichi, c'est. Le mystère chichi frotte et levé. Il y a aussi des... Donc j'ai vraiment un souci de l'économie.
Mais en plus, vos chansons, elles sont courtes, vous. Il y a un souci de la concision aussi.
Oui, parce que je ne veux pas déranger.
Ah oui ?
Tout à fait. Qui m'aime me suive, quoi. Je ne peux pas... Je ne veux pas forcer les gens à m'aimer, forcer les gens à...
Quand vous dites « je ne veux pas déranger », c'est quoi votre relation au succès ?
Quand je termine la chanson et que j'en suis content, c'est vraiment le premier succès. Si j'avais un compteur en moi qui pouvait montrer les degrés de satisfaction, d'épanouissement, voilà, on est à 9,5. Et d'ailleurs, en dessous de 9,5, je ne valide pas la chanson. Alors ensuite, quand j'ai eu le projet d'en faire mon métier, de faire des chansons, je pensais que je serais aussi populaire que Jean-Jacques Goldman. Alors Jean-Jacques Goldman, j'écoute pas spécialement, mais j'ai rien contre. Mais par contre, ce que j'aime bien, c'est que c'est très populaire au bon sens du terme. Il y a un truc, c'est sincère, c'est... Bref. Et donc, j'imaginais que dans les balles d'été, dans les campings, les gens apprendraient mes chansons. Voilà. Et donc, je n'en suis pas là, comme vous pouvez peut-être vous en rendre compte. Et donc, je vois le verre à moitié vide ou à moitié plein. Et quand je le vois à moitié vide, je me dis, mais je suis incompris. Et pourquoi ce con-là, il fait la couve de machin, alors que moi, ce que je fais, c'est mieux. Et pourquoi... Ça fait partie du truc. Une claque, un baiser. Une claque, un baiser, comme dirait l'autre. Et je trouve ça parfaitement dit. Et sinon, je vois le verre à moitié plein. Et heureusement, je le vois plus à moitié plein. Et je me dis, j'ai une chance inouïe. Ça fait 25 ans que je fais exactement les chansons, exactement à la virgule près, comme je veux, quand je veux. Donc, je me dis, mais... Voilà, j'espère que mon fils aura la chance que j'ai de s'épanouir vraiment, quoi. Donc le succès, oui, j'ai du succès.
Orange is nice and so is yellow. Can't make my choice from my window. No better is no. I like to be, and I like the white light of the moon. I like the black night coming soon. Am I alone? Oh yeah. Sinking in my bedroom.
L'album de Mathieu Bogart s'intitule En anglais. Le documentaire d'Arthur Le Foll qui raconte sa tournée des clubs londoniens avec ses nouvelles chansons, c'est Mathieu avec un seul T. 20 minutes à déguster et visible sur YouTube. Cette émission réalisée par Coy Nguyen avec Élise Christophe ce matin, Ilinka Negulesco assure la préparation de Pop & Co et JB Audibert s'occupe de la programmation musicale. La semaine prochaine, Pop & Co est Pop & Nino, comme Nino Ferrer. À samedi!